Donc, bonsoir à tous. On continue ce voyage à travers les interactions et fusions de galaxies en regardant un peu de plus près ce qui se passe dans notre galaxie, la Voie lactée. Et on regardera un peu les interactions actuellement en cours dans la galaxie. Mais surtout, on essayera de discuter un peu comment rechercher les signes d'interaction passée. Donc les satellites qui ont été accrétés et qui sont désormais mélangés aux étoiles de la galaxie même. Donc pour commencer, un petit rappel sur où la Voie lactée se trouve. Donc elle fait partie du groupe local, qui est un groupe qui contient un peu plus d'une cinquantaine de galaxies, dont la Voie lactée est ici, la Milky Way, marquée en rouge. Les deux galaxies les plus massives de ce groupe sont la Voie lactée et Andromède, M31. Et après, vous voyez qu'autour de chacune de ces deux galaxies massives, il y a des dizaines de satellites qui orbitent autour des deux. Donc, les satellites les plus proches à la Voie lactée sont la galaxie naine du Sagittaire, qui était découverte en 1994 par Rodrigo Ebata et collaborateurs, qui se trouve actuellement à environ 15 kiloparsecs du centre de la Voie lactée. Après, vous avez ici les nuages de Magellan, dont Françoise a parlé avant, la petite et la grande. Et après, vous avez tout un tas d'autres petits satellites. Alors, ici, vous avez une vue du ciel. Ça, c'est une image donnée par le satellite Gaïa, par la première release de données il y a un an environ. Donc vous avez ici le centre de la galaxie, vous voyez le bulbe avec sa structure un peu à cacahuète, le plan du disque, vous avez toute la poussière qui masque une partie des étoiles. Et après vous pouvez voir ici les nuages de Magellan, donc la grande et la petite. Vous avez ici Andromède et la galaxie du triangle qui est une des satellites d'Andromède. Et après, tout un tas d'autres galaxies à mains globulaires qui se trouvent, qu'on peut observer dans le ciel. Donc, on a dit la galaxie de Sagittaire, il s'agit de la galaxie naine la plus proche de la Voie lactée, qui a été découverte en 1994 par Rodrigo Ebata et collaborateurs. En fait, ce n'était pas une découverte facile, parce que la galaxie du Sagittaire se trouve, vous voyez, en direction du bulbe, mais de l'autre côté de la galaxie par rapport à nous. Donc en fait, elle était masquée par plein d'étoiles, c'est une région très dense de la galaxie, donc c'était très difficile de pouvoir découvrir cette galaxie. Et la découverte était faite en regardant les vitesses des étoiles dans cette région du ciel, qui montrait un mouvement d'ensemble qui faisait penser qu'il y avait quelque chose qui était autre que les étoiles de la galaxie même. Donc, on sait aujourd'hui que la galaxie du Sagittaire a une masse qui est quelques centièmes de la masse de la Voie lactée. Donc, c'est un petit objet qui est en train de se faire arracher, détruire par le potentiel galactique. Donc, en fait, Sagittaire est en train de retraverser le disque galactique sur une orbite presque polaire. C'est qu'il y a eu beaucoup de travail pour essayer de comprendre et modéliser l'évolution de cette galaxie au cours du temps. Et une des difficultés est remontée à la masse initiale de Sagittaire. Donc on sait qu'actuellement, sa masse est un centième environ de la masse de la Voie lactée, mais il est difficile de comprendre quelle était la masse de la galaxie à l'origine quand l'accrétion dans le potentiel de la Voie lactée a commencé. Donc il y a plusieurs scénarios, des scénarios dans lesquels Sagittaire avait une masse pas trop différente de la masse actuelle, et d'autres scénarios où par contre Sagittaire était beaucoup plus massif. Quoi que ce soit, ça c'est des images prises par un travail de Chris Purcell et collaborateurs, aussi dans le cas où Sagittaire était assez légère, l'interaction avec la galaxie a dû laisser des signatures. On pense surtout dans les régions externes du disque. Donc vous avez ici cette image d'une simulation effectuée par Chris Purcell où il montre en fait que Sagittaire, le passage de Sagittaire à travers le disque de la Voie lactée aurait pu générer au moins une partie de la structure spirale que on voit dans les régions externes de la galaxie, en particulier cet anneau de Monoceros qui est une structure que on voit dans l'anticentre, ici est le Soleil, donc on le voit en direction de l'anticentre et dont l'origine est encore pas mal débattue. D'autres interactions en cours, Françoise a déjà cité les nuages de Magellan, donc ici vous avez une image de la distribution en hachant liée à la grande et la petite nuage de Magellan. Et donc là aussi, l'origine et l'étude de cette interaction entre les nuages et la Voie lactée est assez débattue. Une des raisons étant, comme Françoise a dit, qu'il n'est pas clair. Pour longtemps, on a pensé que ces nuages étaient en train d'interagir depuis longtemps dans le potentiel galactique, mais des études plus récentes montrent qu'en fait, il pourrait s'agir du premier passage dans le potentiel galactique. Donc, il y a eu le travail de Besla, déjà cité, qui, par exemple, propose que le courant de Magellan est issu des effets de marée. Donc, c'est juste du gaz qui est en train de s'échapper à cause des effets du potentiel gravitationnel galactique. Et d'autres études, comme par exemple l'étude de François Hammer, déjà citée, mais aussi de Chiara Mastropietro en 2005, qui ont montré que, par contre, courant en achat lié à l'LMC pourrait être simplement le résultat de ces vents qui se produisent quand une galaxie qui contient du gaz rentre dans le potentiel, dans l'halo chaud qui entoure la Voie lactée. Donc, un peu des deux processus probablement est un acte, et donc pour expliquer ce qu'on voit, probablement il faut faire appel aux deux phénomènes. Et enfin, on a Andromède, qui est l'autre galaxie massive du groupe, en fait la plus massive du groupe. Il y a eu beaucoup de questionnements sur la trajectoire et la vitesse relative entre Andromède et la Voie lactée. Il y a encore tout un gros questionnement là-dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelques années, donc il y a eu ce travail de Van der Marel et collaborateurs qui ont utilisé des données HST pour calculer les vitesses tangentielles de M31. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il semblerait que ces vitesses tangentielles ne sont pas assez élevées pour empêcher une collision entre Andromède et la Voie lactée dans le futur. Donc ici, une simulation faite par le même groupe, où vous voyez la Voie lactée, et bientôt vous allez voir, voilà, vous allez un peu voyager, et voilà Andromède avec la galaxie du triangle M33. Et donc, c'est que les estimations les plus récentes de vitesse suggèrent est qu'en fait, dans quelques milliards d'années, 2-3 milliards d'années, il devrait y avoir un passage proche entre la Voie lactée et M31. Voici le premier passage proche. Et après, par friction dynamique, ces deux galaxies devraient perdre leur énergie orbitale relative, et entre 4 et 5 milliards d'années, il devrait y avoir une fusion complète entre les deux galaxies, donc le résidu serait une elliptique, M33 deviendrait un satellite de ce résidu de fusion. Donc, on a vu quelques-uns des interactions en cours, mais une des grandes questions est d'essayer de comprendre où sont les interactions passées. Donc, ici, une animation prise par une simulation cosmologique qui montre qu'une galaxie, donc ce que vous voyez sont tous des halos, l'halo est des tout sous-halos de matière noire. Une galaxie comme la Voie lactée devrait être entourée par des centaines de petits halos de matière noire. Et une partie de ces halos devrait contenir des baryons, et au cours du temps, ces satellites devraient avoir été accrétés sur la Voie lactée. Donc, les simulations cosmologiques suggèrent que la phase de fusion importante pour une galaxie comme la Voie lactée devrait remonter aux premiers milliards d'années d'évolution de notre galaxie. Mais le problème est quel type de satellite il faut chercher et où il faut les chercher dans notre Voie lactée aujourd'hui. Donc, ici, un plot une figure un peu difficile, mais que j'essaie de résumer. Donc, on peut utiliser, en fait, pour essayer d'avoir des indications où chercher et quel type de satellites ont pu interagir et être accrétés par la Voie lactée dans le passé, il faut encore une fois faire recours aux simulations cosmologiques. Et donc, ce qu'on fait typiquement, on va chercher dans les simulations cosmologiques des halos de matière noire qui ressemblent, en termes de masse et taille, ce qu'on pense être un halo typique d'une galaxie comme la Voie lactée. Et on regarde l'histoire d'accrétion que ces galaxies type Voie lactée ont eu au cours du temps. Et si on fait cet exercice, que c'est le travail que, par exemple, Dison et Tal ont proposé il y a moins de 2 ans, Ce qu'ils ont montré, c'est qu'une galaxie comme la Voie lactée devrait pour la plupart accréter des satellites avec une masse moyenne entre 10 puissance 8 et 10 puissance 9 masse solaire. Cela dépend aussi du type d'accrétion. Pas tous les halos ont le même type d'histoire d'accrétion. Mais grosso modo, une galaxie comme la Voie lactée ne devrait pas avoir subi beaucoup de fusions majeures, mais par contre, un certain nombre de fusions dans cet intervalle de masse, de satellites dans cet intervalle de masse. Donc, est-ce que cela peut être compatible avec ce qu'on connaît de la Voie lactée? Donc, ici, l'histoire du disque, l'histoire de formation stellaire du disque de la Voie lactée, comme on l'a reconstruite il y a quelques années. Donc, ce que vous voyez, c'est le taux de formation stellaire, donc la quantité d'étoiles formées par unité de temps, en fonction du temps. Donc, ici, vous avez la formation stellaire récente, et ici, la formation stellaire à des époques très anciennes. Donc, ce que vous voyez, c'est que la Voie lactée a eu, dans les premiers 2-3 milliards d'années, une formation stellaire plus intense que celle qu'elle a aujourd'hui, un facteur 3-4, au moins plus important de ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, si on veut chercher des interactions et les résidus des interactions et fusions passées, eh bien, peut-être il faut les chercher à cette époque-là, dans les premiers milliards d'années. Pourquoi ? Ben, une des raisons étant qu'on sait aussi grâce au modèle que les fusions de galaxies stimulent la formation stellaire. Donc ici vous avez par exemple une simulation faite par Cox et al. Il y a une dizaine d'années où vous voyez la distribution du gaz. Donc vous avez une galaxie type Voie lactée, un petit satellite. En bleu vous avez la distribution de gaz dans les deux galaxies et les différents panneaux correspondent à différents temps pendant l'évolution. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'au cours de l'évolution, il y a une compression de gaz dans les régions centrales et cette compression du gaz stimule la formation stellaire dans les régions plus internes. Donc, évidemment, l'intensité de cette flambée de formation stellaire va dépendre de la masse du satellite. Donc, ce n'est pas la même chose si une galaxie comme la Voie lactée interagit avec une galaxie qui a la même masse que la Voie lactée ou si elle accrète un tout petit satellite. Donc, le taux de formation stellaire sera différent dans les deux cas. Et en analysant, comme Françoise vous disait avant, une bibliothèque d'environ un millier de simulations de fusion et interaction de galaxies, on a pu apprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe d'un point de vue statistique quand on a des rencontres. Donc ici, je vous montre juste deux animations. Donc sur la gauche, à haut, vous voyez la distribution du gaz dans deux galaxies à disque qui ont la même masse initialement et vous verrez comment cette distribution évolue dans le temps. À droite, vous avez les régions de formation stellaire. Maintenant, vous ne voyez rien parce que c'est juste le début de la simulation, mais vous verrez les régions où il y a la formation stellaire la plus intense. Et en bas, vous avez l'histoire de formation stellaire pendant cette rencontre, donc le taux de formation stellaire en fonction du temps. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe, c'est un cas de deux galaxies en orbite directe, donc même sens de même spin orbital entre les deux galaxies et l'orbite relative. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans une orbite directe, vous avez une bonne partie du gaz qui ou s'échappe dans les queues de marée ou reste très distribué sur une portion très large du disque. Et donc, dans la phase de fusion, vraiment dans les phases finales, vous allez stimuler un taux de formation stellaire qui est quelquefois, 5-6 fois, celui de la galaxie isolée. Donc maintenant, si on prend les mêmes galaxies, mais cette fois-ci, on change le sens orbital, donc on regarde l'orbite rétrograde, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de véritable queue de marée qui se forme et tout le gaz se concentre dans les régions centrales, dans les phases finales de fusion. Donc là, vous allez stimuler un flambé de formation stellaire beaucoup plus important. Il reste que si on regarde toutes les fusions et les interactions, donc si on fait une étude sur une grande statistique, 100 000 interactions, ce qu'on trouve, c'est que les cas où le taux de formation stellaire augmente de façon vraiment remarquable sont très rares. Et en fait, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'en moyenne, le taux de formation stellaire augmente seulement d'un facteur 3-4 par rapport à ce qu'on aurait dans une galaxie isolée qui évolue sans subir d'interaction. Donc, si on revient au taux de formation stellaire qu'on a mesuré pour la Voie lactée, on voit que le rapport entre ce taux de formation stellaire dans les premières phases d'évolution de la galaxie et le taux de formation stellaire qu'on trouve dans les phases les plus récentes est environ un facteur 3-4. Donc, dans cette phase-là, effectivement, on pourrait cacher des fusions. Ça aurait pu être, ça pourrait être la phase dans laquelle la galaxie a expérimenté le plus de fusions. Donc, s'il faut chercher les fusions aux époques les plus anciennes d'évolution de la Voie lactée, comment on fait aujourd'hui? Ben, c'est un peu le travail, c'est en fait un travail qu'on appelle d'archéologie galactique. C'est vraiment un peu le travail d'un archéologue ou d'un paléontologue. On va rechercher, on va regarder nos étoiles dans la Voie lactée aujourd'hui, mais on recherche parmi les étoiles les plus anciennes. Donc, c'est qu'on essaye de comprendre, à partir de ces étoiles les plus anciennes, comment remonter au passé de la Voie lactée. Alors, où elles sont les étoiles anciennes dans notre galaxie? Donc ici, c'est une vue un peu schématique de notre galaxie. Vous avez les régions centrales en rouge, le bulbe, un disque mince qui est ici en vert. Le Soleil est à 8,5 kiloparsec du centre galactique. Ce disque mince, où il y a actuellement de la formation stellaire en cours, est entouré par un disque plus épais. En fait, on l'appelle vraiment le disque épais, vous voyez ici. Et toute cette structure est entourée par un halo stellaire qui constitue un tout petit pourcentage de la masse totale de la galaxie, juste quelques pourcents. Et dans cet halo, halo stellaire, vous trouvez aussi environ une centaine, 150 amas globulaires. On reviendra sur ces amas globulaires et pourquoi ils sont importants pour tracer le passé de la galaxie. Mais donc vous avez en total 100-150 amas globulaires distribués dans l'halo et aussi en partie dans les régions centrales de la galaxie. Donc, alors, on a dit que le disque mince, c'est une région où il y a encore actuellement de formation stellaire. Donc, ce n'est pas là qu'on va chercher les étoiles les plus vieilles. Les étoiles les plus vieilles dans notre galaxie aujourd'hui se situent dans le disque épais, où on estime que les étoiles ont des âges supérieurs à 9 milliards d'années, entre 9 et 13, dans l'halo, qui est aussi encore un peu plus vieux que le disque épais, donc des âges supérieurs à 10 milliards d'années, dans le bulbe, et dans les amas globulaires. Les amas globulaires ont en moyenne un âge de 10 milliards d'années. Donc, dans la suite, je parlerai un petit peu de ce disque épais, parce qu'il s'avère être une composante importante pour comprendre les premières phases d'évolution de la galaxie, et aussi parce que la masse du disque épais s'avère ne pas être négligeable. Donc, pour longtemps, il a été considéré comme une structure qui devrait contenir environ 10% de la masse totale stellaire de la galaxie, mais des estimations plus récentes amènent à penser qu'en fait, cette fraction est beaucoup plus significative. Il pourrait contenir jusqu'à la moitié de la masse stellaire totale de la galaxie. C'est la dernière composante stellaire de la Voie lactée qui a été identifiée au début des années 80 par Gilmore et Reed. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Gilmore et Reed? Ils ont mesuré la densité stellaire. Ils ont fait un comptage d'étoiles, ils ont regardé en direction du pôle sud galactique et ils ont tracé le nombre d'étoiles en fonction de la distance au plan, de la distance verticale au plan. Et ce qu'ils ont vu, c'est que si la galaxie contenait un disque mince seulement, on devrait voir un profil de densité qui tombe de cette façon-là. Mais en fait, ils ont remarqué qu'il y a un excès, représenté avec les points, les points sur les comptages, en fait, il y a un excès d'étoiles à grande distance du plan, et c'est là qu'on a eu la confirmation qu'il existe une composante épaisse de disque épais dans la galaxie. Ici, c'est juste pour vous montrer que, en fait, aussi d'autres galaxies ont des disques épais. En fait, ce sont des structures assez communes dans les galaxies à disque. Et donc, ici, c'est le cas d'une autre galaxie où vous voyez un disque mince, et quand vous exposez plus longtemps, vous voyez bien apparaître cette structure plus épaisse. Donc, comment cette structure s'est formée et pourquoi on pense que ça a fait quelque chose avec les fusions et les interactions de galaxies? Donc, sur la droite, vous avez une animation d'une galaxie à disque, qui initialement a simplement un disque mince, et qui accrète un satellite. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'au cours du temps, le satellite tend à pénétrer dans les régions internes de cette galaxie et le disque, qui initialement était un disque mince, épaissit. Ici, vous avez la même simulation, simplement vue de face. Donc, vous voyez le disque de face et vous voyez, entre autres, la formation de cette belle barre et bras spiraux aussi stimulés par le passage du satellite. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Quel processus physique vous êtes en train de voir ici? Vous savez simplement qu'une partie de l'énergie orbitale du satellite, au cours du temps, à cause de la friction dynamique, est convertie en énergie interne des étoiles du disque de la galaxie principale. Donc, ces étoiles gagnent de l'énergie et donc ils ont plus de dispersion de vitesse et donc la distribution tend à épaissir. Donc, c'est ce mécanisme. Donc, on peut former un disque épais simplement par réchauffement cinématique, comme on dit, d'un disque mince. C'est une chose qui a été très, très étudiée dans les derniers 30 ans. Donc, je ne veux pas que vous regardiez toutes ces images, mais je voudrais vous dire qu'il y a tout un tas de paramètres qui jouent un rôle important dans la structure finale, dans les propriétés finales du disque épais. Par exemple, à l'aide de simulations numériques, on a compris que l'épaisseur finale du disque épais dépend de la masse du satellite accrété. C'est ce qu'on peut comprendre. Le plus le satellite est massif, le plus on va générer un disque, le plus l'épaisseur du disque initialement mince va augmenter. Cela dépend aussi de la quantité de gaz qu'il y a initialement dans la galaxie principale. Donc, ce n'est pas la même chose si vous accrétez un satellite dans une galaxie qui ne contient pas du tout de gaz ou qui est riche en gaz, parce que le gaz va contrebalancer cet effet de chauffement dû au passage du satellite. Et après, les propriétés du disque épais dépendent aussi de l'orbite, de l'inclinaison du satellite par rapport au plan orbital. Donc, si vous accrétez un satellite sur une orbite qui est dans le plan de la galaxie principale, vous avez un disque épais qui aura une forme plus aplatie. Alors que si, par exemple, l'orbite est polaire, comme ici, vous allez avoir un disque épais qui est beaucoup plus étendu. Donc, on pourrait dire, on a toutes ces simulations, donc on sait comment les propriétés du disque épais dépendent des paramètres orbitaux, donc on pourrait être capable de dire quelque chose sur le type de satellite, la masse du satellite, les paramètres orbitaux ou à quelle époque ces interactions ont eu lieu. Ben, malheureusement, la chose n'est pas si simple parce que ce n'est pas... on a vu qu'on peut former un disque épais par réchauffement d'un disque mince, mais il y a aussi un mécanisme qui est presque opposé et qui amène essentiellement au même résultat. Donc, on peut le former par réchauffement, comme on a dit, mais en fait, on peut le former aussi par refroidissement cinématique. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Dans les dernières années, ça, c'est un scénario qui est en train d'être de plus en plus étudié dans les dernières années. La raison étant qu'il y a eu des travaux, il y a environ une dizaine d'années, par Chris Brooke et collaborateurs, qui ont montré che dalle fasi iniziali d'evoluzione di una galaxie come la Via Lactée, en fait, sono delle fasi où on accrète beaucoup de satellites, beaucoup de galaxies. Donc, le gaz même, la galaxie est très riche en gaz, et à cause de ces interactions continues, le gaz est très turbulent. Donc, les étoiles qui se forment à partir de ce gaz ne sont pas redistribuées, confinées dans un disque mince, mais elles se forment dans un disque qui est plus épais que celui dans lequel on voit se former les galaxies aujourd'hui, les étoiles, pardon, aujourd'hui. Et donc, c'est exactement ce que Bird et Tal ont montré quelques années après. Ils ont regardé une simulation de la formation d'une galaxie type Voie lactée et ils sont allés regarder étoiles qui se sont formées à des différentes époques pendant l'évolution de cette galaxie, comment elles sont redistribuées. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, si vous regardez ces premiers panneaux, vous avez la distribution vue de face et vue de tranche des étoiles qui se sont formées dans le premier milliard d'années d'évolution de cette galaxie. Et vous voyez que la distribution est assez concentrée et que si vous regardez de tranche ces étoiles, elles ont une configuration très épaisse. Alors qu'au fur et à mesure que vous allez vers des étoiles formées à des temps plus récents, vous voyez que le disque devient plus mince, jusqu'à arriver à les étoiles en train de se former à des époques très, très récentes. Vous voyez que le disque est très, très mince, et vous voyez aussi très bien la structure spirale. Donc, est-ce qu'il est possible de savoir quel scénario est valable pour la Voie lactée? Donc, on essaye, mais la chose n'est pas facile. Une suggestion qui avait été faite il y a quelques années, c'était d'aller regarder les propriétés orbitales, les orbites des étoiles du disque épais qui sont aujourd'hui dans la Voie lactée. La raison étant qu'on pensait les propriétés, les étoiles, l'orbite des étoiles doivent quelque part maintenir mémoire des conditions de formation de ces étoiles. Donc, comment on définit une excentricité ? Ce qu'on a fait, c'était d'aller regarder la distribution d'excentricité d'étoiles du disque épais. Qu'est-ce que c'est l'excentricité ? Donc, ici, vous avez une vue de face. Donc, imaginez que celui-là est le disque d'une galaxie comme la Voie lactée. Ce que vous voyez en noir, c'est une orbite circulaire. Et ce que vous voyez, par contre, en couleur, c'est une orbite excentrique. C'est-à-dire une orbite qui, à la place où l'étoile, à la place de se trouver toujours à la même distance du centre galactique, comme c'est le cas d'une orbite circulaire, oscille entre une distance maximale et une distance minimale. Donc, on peut mesurer l'excentricité, qui est exactement cela, l'oscillation entre la distance maximale et minimale de l'étoile, divisée par la summation de ces deux valeurs. Donc, dans le cas d'une orbite circulaire, l'excentricité est zéro, mais pour les orbites du disque épais, cette excentricité peut être significative. Donc, il avait été suggéré, on regarde les excentricités, la distribution des excentricités des étoiles, et on va apprendre quelque chose à propos des scénarios de formation du disque épais de la Voie lactée. Donc, c'est ce qui a été fait dans ce travail de Dieric et Tal en 2010. Donc, ce que vous voyez en gris, c'est la distribution d'excentricité, donc le nombre d'étoiles qu'on a à une excentricité donnée, issue d'une simulation numérique, c'est comparé aux observations. Donc, vous voyez un très bon match. Et dans le premier cas, c'est le cas où le disque épais s'est formé par refroidissement d'un disque. Donc, vous pourriez dire, mais voilà, ça marche. C'est celui-là le scénario qui peut expliquer la formation du disque épais dans la galaxie. Mais dans la réalité, vous pouvez faire la même chose avec une simulation qui simule le disque épais par réchauffement d'un disque mince et vous trouvez encore un bon accord. Donc il est vraiment difficile au moins d'utiliser ce genre d'estimation pour comprendre la formation du disque épais de la Voie lactée. Probablement, il y a évidemment, comme souvent, les deux mécanismes, ils sont en train de jouer un rôle en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est que, quoi que ce soit le mécanisme prépondérant, il y a un lien très probable entre la formation de cette structure dans la galaxie et la phase d'interaction. Donc, le disque épais peut être lié aux interactions, mais on reste avec un problème. Et c'est le problème de retrouver les étoiles qui ont été accrétées au cours du temps dans la galaxie, une fois que ces étoiles sont complètement dispersées dans la galaxie même. Donc, ici, encore une animation prise d'une simulation numérique qui vous montre chaque couleur représente un satellite qui est accrété dans une galaxie type Voie lactée. Attention, il n'y a pas d'étoile de la Voie lactée montrée dans cette animation. Donc, tout ce que vous voyez sont les étoiles du satellite. Alors, vous voyez qu'au bout de quelques milliards d'années, ces étoiles sont complètement mélangées, surtout celles qui se trouvent dans les régions centrales, et il est difficile, si on ne coulerait pas différemment ces satellites, de comprendre d'où ces étoiles viennent. Donc, comment on fait à retrouver donc, les anciens signes des accrétions ? Donc, une idée qui a été proposée il y a environ 15 ans, c'était d'aller regarder les propriétés cinématiques des étoiles. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Et en particulier de regarder dans ce qu'on appelle les espaces des intégrales du mouvement. Qu'est-ce qu'on veut dire pour cela? Imaginez que vous avez une galaxie comme la Voie lactée qui est en train d'accréter un certain nombre de satellites. Chaque satellite rentre dans la galaxie avec une certaine énergie orbitale et un certain moment orbital, moment angulaire orbital. Donc chaque satellite constitue un de ces surdensités colorées que vous voyez là. Ça, c'est le début de la simulation. Vous laissez passer le temps, vous laissez que ces satellites évoluent dans le potentiel de la Voie lactée, et ce qu'il a été remarqué, c'est que la structure initiale dans cet espace est maintenue. C'est-à-dire, aussi après 12-13 milliards d'années, on retrouve encore que chaque satellite correspond à une surdensité dans cet espace. Donc, les satellites semblerait conserver leur énergie et leur moment angulaire au cours de l'épisode d'accrétion. Et ça, c'est super, parce que ça veut dire que même si les étoiles du satellite sont complètement mélangées d'un point de vue spatial aux étoiles de champ, si on a la chance de pouvoir mesurer l'énergie orbitale et le moment angulaire orbital, ce qui demande d'avoir position et vitesse de ces étoiles, et on peut retracer leur distribution pour un grand échantillon d'étoiles dans ce plan, eh bien, on pourrait dire que chaque sous-structure que je trouve est un satellite accrété. Donc, à partir de cela, je pourrais calculer combien de satellites la galaxie a accrété au cours du temps et quelle était éventuellement leur masse, parce que leur distribution dépend aussi de leur masse. Ceci est valable pour l'espace énergie-moment angulaire, mais aussi par d'autres espaces ou d'autres projections de ces espaces. Donc, il y a eu. Cette méthode a montré tout de suite un grand succès, parce que dans les mêmes années, et mes collaborateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés regarder dans un volume autour du Soleil, un petit volume de quelques centaines de parsecs. Donc, on est très proche du Soleil. Ils ont analysé un échantillon d'étoiles pour lesquelles ils avaient distance et vitesse. Et ce qu'ils ont montré, ça c'est la distribution de ces étoiles dans un plan du moment angulaire, deux projections du moment angulaire. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est l'existence de cette surdensité d'étoiles, qui est marquée ici en orange, qui se détache de la distribution de tout le reste des étoiles. Et ils ont dit, ben voilà. Ça, c'est un signe d'accrétion. On trouve cette surdensité, et comme on vous avait montré dans les modèles, ces surdensités peuvent être issues d'un processus d'accrétion. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé dans les données, par exemple, les distributions de vitesse associées à ces étoiles accrétées, qui sont montrées là en orange pour les différentes projections, donc la vitesse radiale, pardon, celui-là, je pense, fonctionne plus bien, mais vous avez toutes les projections de vitesse, vitesse verticale en fonction de la vitesse azimutale, etc. Et vous voyez où les étoiles qui sont dans cette surdensité dans l'espace qu'on a vu auparavant se situent dans ces espaces. Donc, ils ont fait des simulations d'une satellite accrétée il y a environ 8 milliards d'années dans la Voie lactée, un satellite avec une masse d'environ 10 puissance 8 masse solaire. Ce que vous voyez sont les premières phases de l'accrétion, ça c'est dans l'espace de position. Ici, vous voyez comment ces étoiles se redistribuent après 8 milliards d'années, donc il est difficile de retrouver une cohérence dans cette distribution. Mais ce qu'il montre, c'est que par contre, ces étoiles qui sont complètement mélangées dans l'espace physique conservent une garde, une cohérence dans les espaces de vitesse. Et quand vous regardez ce que vous avez ici, si vous comparez la distribution de ces étoiles au point orange, vous voyez qu'il y a un très très bon accord. Donc aujourd'hui, ça c'est une des indications principales de la possibilité qu'au voisinage solaire, il y a des étoiles qui sont issues d'une ancienne accrétion. Donc, l'histoire est un peu peut-être plus compliquée de ce qu'on a vu jusqu'au présent, malheureusement, parce que, en effet, cette méthode est valable jusqu'à quand. Donc, l'idée que l'énergie et le moment angulaire se conservent au cours du temps est valable si le satellite n'est pas très massif. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, vous avez déjà entendu parler de la friction dynamique. Dans ce cas-là, la friction dynamique n'a pas tant le temps d'agir sur des satellites très peu massifs. Donc, ça veut dire qu'au cours du temps, le satellite va garder son énergie orbitale. Donc, il n'y a pas un changement d'énergie orbitale. Cette énergie est conservée. Mais dans le cas où le satellite est un peu plus massif, là, il y a un problème. Parce que là, il y a de la friction dynamique qui a le temps d'agir et de changer l'énergie orbitale du satellite au cours du temps. Donc, ce que vous avez ici, c'est par exemple la distance entre un satellite et la galaxie principale au cours du temps, et vous voyez que les oscillations deviennent de plus en plus fréquentes et l'apocentre, la distance maximale, diminue. Ça, c'est vraiment un effet du fait que le satellite est en train de perdre une partie de l'énergie orbitale, le satellite est freiné, à cause de la distribution des étoiles de champ, les étoiles chauffent et le satellite perd une partie de l'énergie orbitale. C'est exactement le mécanisme qui agit ici et à cause duquel vous voyez le disque s'épaissir et le satellite pénétrer dans les régions plus internes. Alors, quand l'énergie orbitale ne se conserve pas, eh bien, est-ce qu'un clamp, une surdensité dans cet espace reste une surdensité? Eh bien, malheureusement, non. Et c'est ce qu'on a montré ici l'année passée. Donc ici, vous avez la distribution d'étoiles dans un satellite, dans le plan énergie-moment angulaire, au cours du temps. Donc ce que vous voyez, c'est qu'à chaque passage du satellite autour de la galaxie principale, comme indiqué dans le petit panneau en bas, vous produisez une surdensité différente. Donc à chaque fois que le satellite passe proche du centre de la galaxie principale, une partie des étoiles s'échappe à une certaine énergie et à différents passages, on produit tous ces clumps. Donc, morale de l'histoire, si vous avez la possibilité d'aller tracer la distribution d'étoiles dans cet espace énergie-moment angulaire, ce n'est pas nécessairement dit qu'une surdensité dans cet espace correspond à l'accrétion d'un satellite. On pourrait avoir que 10 surdensités sont dues à l'accrétion d'un seul satellite. Donc il y a une dégénérescence, malheureusement, et il n'est pas difficile de remonter du nombre de surdensités au nombre d'accrétions passées. Donc, il nous faut quelque chose d'autre. Donc, la cinématique, les orbites, ce n'est pas suffisant. Donc, une autre méthode sur laquelle on travaille est d'utiliser la chimie, les propriétés chimiques, les abondances chimiques des étoiles. Pourquoi ? Parce qu'une étoile se forme dans un certain milieu interstellaire qui a certaines caractéristiques chimiques et les caractéristiques chimiques sont gardées par cette étoile tout au cours de sa vie. Donc, vous pouvez imaginer une étoile qui se forme dans un satellite avec une certaine propriété et abondance chimique initiale. Lorsque l'étoile et la galaxie sont accrétées dans la Voie lactée, bien, l'étoile continuera à avoir les propriétés chimiques qu'elle avait à l'origine. Donc, une des premières raisons pour lesquelles donc, il est intéressant et important d'aller regarder la chimie, c'est qu'on sait qu'il y a une relation entre la métallicité moyenne d'une galaxie, la métallicité moyenne des étoiles dans une galaxie, et la masse de la galaxie même, qui dit que le moins la galaxie est massive, le moins en moyenne elle est riche en métaux. Donc, si vous accrétez un satellite qui est un centième ou un millième de la masse de la Voie lactée, vous attendez à que la plupart des étoiles qui sont accrétées dans la Voie lactée par ce satellite sont des étoiles avec une faible métallicité, beaucoup plus faible que celle que vous avez à la même époque dans la Voie lactée. Et il y a d'autres caractéristiques qui sont importantes, hein, et j'essaie, c'est une chose schématique, mais j'essaie de l'expliquer. Donc, un autre plan que on regarde avec intérêt, c'est un plan où vous avez la métallicité sur l'axe des X, donc le rapport fer sur hydrogène, en fonction, par exemple, de magnésium sur fer, mais ça peut être silicium sur fer, titanium sur fer, donc abondance de CD éléments alpha par rapport au fer. Et on regarde ce type de plot parce que c'est quelque part un horloge de la formation stellaire et de la rapidité avec laquelle l'enrichissement se fait dans une galaxie. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc ici, vous voyez qu'il y a deux parties dans ce plot, un plateau et après vous voyez une pente. Donc le plateau et le pente, et donc typiquement une galaxie, les premières étoiles qui se forment dans une galaxie ont une métallicité très basse. Cette métallicité augmente au cours du temps et à un moment donné, la tracée chimique de la galaxie tend à descendre. Pourquoi ? Parce que dans les premiers quelques dizaines de millions d'années, depuis le début de la formation stellaire de la galaxie, ce qui agit. Donc vous savez que les différentes générations d'étoiles, des étoiles se forment, elles produisent des éléments à l'intérieur de l'étoile et après ces éléments sont relaissés dans le milieu interstellaire quand l'étoile est à sa fin de la vie. Et par exemple, elle explose comme supernova. Donc elle relaisse ces éléments dans le milieu interstellaire et les générations d'étoiles qui se forment après se formeront à partir d'un milieu interstellaire qui est enrichi de ces éléments formés par les générations précédentes d'étoiles. Donc, dans le plateau, ce qui domine cette partie-là est l'explosion d'étoiles supernovas de type 2, qui sont des étoiles très massives, supérieures à 8 masses solaires, qui évoluent très rapidement, explosent après 10-50 millions d'années depuis leur formation, et donnent au milieu interstellaire beaucoup d'éléments comme le magnésium, le silicium, etc. Après, sur des temps plus longs, vous avez l'explosion de supernovas de type 1A, qui sont par contre des étoiles qui relaissent pour la plupart du fer. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce rapport, magnésium sur fer, décroît en fonction du temps, parce que vous êtes en train de réinjecter plus de fer que d'éléments comme le magnésium. Donc pourquoi cette chose-là est importante? Parce que si vous, ce qu'on apprend, c'est que l'endroit où ce changement de pente se fait dépend de la masse de la galaxie. Donc le moins la galaxie est massive, le plus ce changement de pente se produit à basse métallicité. Ça ressemble à une chose difficile, mais c'est une chose qui est très importante quand on analyse des données, par exemple, au voisinage solaire. C'est ce qui a été fait ici. Donc ça, c'est un échantillon d'étoiles au voisinage solaire. Et ce que Nissen et Schuster ont montré, donc c'est exactement un plan comme le plan que je vous montrais avant, abondance en éléments alpha, donc rapport alpha sur fer en fonction de la métallicité. Et ce qui a été montré, c'est qu'à la place d'avoir une unique séquence, vous en voyez deux. Cette deuxième séquence est interprétée comme être due, donc les étoiles qui se trouvent dans cette séquence, on pense être des étoiles accrétées, c'est-à-dire des étoiles qui ont eu une évolution chimique différente de celle qui a par contre eu lieu dans la Voie lactée et qui est représentée par les points qui sont en haut. Donc il y a une façon aussi d'un point de vue chimique d'aller séparer les étoiles accrétées des étoiles formées dans la galaxie, simplement parce que des étoiles qui se forment dans des environnements, dans des galaxies de masse différentes, auront des patterns, des tracés chimiques différents. Donc on peut espérer, dans la Voie lactée, d'avoir un échantillon assez grand, ça c'est un échantillon encore très limité au voisinage solaire, mais de pouvoir faire ce genre d'études sur des volumes beaucoup plus grands, une statistique beaucoup plus grande, pour essayer de comprendre combien de ce type de patterns, de tracés on peut avoir. Et alors, seulement pour vous dire que c'est exactement ce que les simulations prédisent, donc sans rentrer dans le détail de ces plots, il s'agit toujours des figures qui montrent, par exemple, la métallicité en fonction du temps ou le rapport oxygène-sulfur en fonction du temps, donc de l'âge. Ce que vous voyez, c'est que les simulations vous prédisent beaucoup de tracés chimiques, parfois très fines, parfois plus élargies, et chacune de ces tracés chimiques est due à l'accrétion d'un satellite. Donc, si on a la possibilité d'avoir des estimations d'abondance et ou d'âge pour un nombre significatif de galaxies, d'étoiles dans la galaxie, on peut espérer de reconstituer l'histoire d'accrétion sur la Voie lactée. Donc, je vous disais que le travail qui a été fait juste avant sur les abondances était limité au voisinage solaire. Mais donc, comment faire pour l'instant pour aller sur des échelles plus grandes, des échelles galactiques? On peut utiliser une autre sonde, c'est-à-dire les amas globulaires. Pourquoi les amas globulaires? Donc, on a vu au départ qu'il y a environ 150 amas globulaires dans notre galaxie, qui sont des systèmes vieux, avec des âges moyens de 10 milliards d'années. Donc, ce sont des systèmes qui se sont formés vraiment dans les premières phases d'évolution de la galaxie et donc qui tracent les époques les plus anciennes de sa formation. Donc, on a vu que chaque fois qu'un satellite est accrété dans la Voie lactée, ces étoiles vont être redistribuées dans la galaxie principale, mais les satellites, eux, contiennent aussi leur système d'amas globulaires. C'est par exemple le cas de Sagittaire, pour lequel on sait que la galaxie du Sagittaire est en train de nous amener aussi son système d'amas globulaires qui est en train d'être accrété. Donc, vous le voyez ici, donc à gauche, vous avez une simulation d'une accrétion et à droite, vous avez l'état final de cette accrétion où les points rouges correspondent à des amas globulaires qui se trouvaient dans le satellite et qui ont été accrétés dans la Voie lactée. Et en bleu, vous avez par contre les amas qui étaient dans la galaxie type Voie lactée dès le départ. Donc, à la fin d'une accrétion, vous pouvez vous attendre à ne pas simplement avoir accrété des étoiles, mais aussi des amas globulaires. Donc, comment faire la différence entre les amas globulaires accrétés et les amas globulaires formés dans la galaxie? Ah, avant que je vous dise ça, juste une chose, parce que c'est un résultat vraiment magnifique. Donc, c'est un résultat qui vous montre que ce processus d'accrétion d'un système d'amas globulaires est en cours dans des galaxies proches de la nôtre. Ça, c'est le cas d'M31. C'est un travail fait par Velianoski et Tal avec le surveil optique PANDAS. Ce qu'ils ont montré, donc ce que vous voyez, c'est M31 avec les traînées de marée, donc des courants stellaires dus à l'accrétion de satellites dans le passé récent d'M31. Et les points colorés représentent des amas globulaires. Donc vous voyez que dans beaucoup de cas, il y a vraiment une correspondance entre les traînées de marée et les amas globulaires, ce qui vous indique que ces accrétions d'enzymes 31 ont aussi amené un système d'amas globulaires qui est en train d'enrichir le système déjà présent d'enzymes 31. Donc, ce genre d'accrétion d'amas globulaires existe. Et si on veut les chercher dans la Voie lactée, bon, et les gens ont essayé, et en effet, ils ont essayé avec succès. Donc, il y a deux travaux faits par Forbes et Bridge et Lehmann et Tal, il y a quelques années, qu'ils ont encore une fois étudié, parce que c'est difficile, ces amas accrétés se redistribuent, se mélangent aux amas formés dans la galaxie. Donc, d'un point de vue spatial, il est très difficile de les différencier. Mais à nouveau, si on fait rentrer en jeu la chimie, on arrive à le faire. Donc, c'est ce qu'ils ont fait dans ces travaux, où pour des dizaines d'amas globulaires galactiques, par exemple Forbes et Bridge, ont tracé la métallicité moyenne de chaque amas en fonction de l'âge de l'amas. Et vous voyez qu'à la place, les amas ne se redistribuent pas tous sur la même tracé, mais vous voyez deux tracés. Et les deux tracés sont indicatifs du fait qu'une des deux est faite d'amas qui ont été accrétés. Donc on pense que tous les amas qui sont dans cette région-là sont des amas qui ne se sont pas formés dans la Voie lactée, mais qui ont été accrétés dans la Voie lactée il y a plusieurs milliards d'années. Donc c'est vraiment une méthode très prometteuse à appliquer aussi dans le futur à un système plus large d'amas globulaires. Donc, je termine avec ces deux derniers transparents. La première pour dire qu'on a vu qu'il y a tout un tas de méthodes qui peuvent être utilisées pour essayer de reconstituer le passé et les accrétions passées dans la Voie lactée. Il y a des difficultés, il y a aussi des succès, mais il y a une partie des difficultés qui viennent aussi du fait que les choses ne sont pas toujours celles qui semblent. Qu'est-ce que je veux dire pour cela? Donc, c'est le cas, par exemple, de l'amas globulaire Omega Centauri. Il est classé comme un amas globulaire, c'est-à-dire un système sphérique, asymétrie sphérique, qui contient actuellement 4 millions de masses solaires d'étoiles. Donc, c'est l'amas globulaire le plus massif qu'on a actuellement dans la galaxie. Et on a pensé pour longtemps qu'il s'agissait d'un amas globulaire comme les autres. Mais après, on a commencé à étudier les métallicités des étoiles de cet amas. Et ce qu'on a vu, c'est qu'à la place de contenir des étoiles qui ont toutes la même métallicité, comme c'est le cas pour les amas globulaires, les amas globulaires sont caractérisés, sont des systèmes stellaires qui se sont formés à la même époque, donc toutes les étoiles avec même métallicité, vous voyez ici la distribution de métallicité dans cet amas, elle est très large. Donc c'est un amas, mais c'est un amas bizarre. Et en fait, une des possibilités pour expliquer l'existence d'un amas pareil est que ce ne soit pas né comme un amas, mais que ce soit le résidu d'une fusion qui a eu dans le passé de la Voie lactée. Donc, Omega Sen, dans ce scénario, serait le noyau d'une galaxie naine qui était accrétée. Vous voyez sur la gauche ici les images de cette accrétion au cours du temps. La plupart des étoiles de cette galaxie naine se seraient échappées et seraient maintenant une partie des étoiles de champ dans la galaxie, mais le noyau de cette galaxie aurait pu survivre à l'interaction avec la Voie lactée et serait ce qui constitue aujourd'hui Omega Sen. Donc, je termine ici en disant que j'espère de vous avoir montré que la Voie lactée, disons, l'étude de la Voie lactée est très prometteuse pour essayer de comprendre un peu plus l'histoire d'accrétion au cours du temps, pour tester aussi les modèles cosmologiques, voir jusqu'à quel point les observations peuvent reproduire les prédictions des modèles. On a un certain nombre d'interactions qui sont en cours de la Voie lactée. Cela peut expliquer un certain nombre de caractéristiques qu'on observe. La recherche des briques fondamentales, c'est-à-dire des accrétions passées, ben lui reste quelque chose d'un peu plus difficile. La réponse est un peu plus difficile. Et un apport fondamental arrivera d'ici quelques mois avec la publication du deuxième catalogue Gaïa. Donc, pour la communauté galactique, mais pas seulement pour la communauté galactique, ça, c'est vraiment un tournant dans notre compréhension de la Voie lactée, parce que vous avez vu que toutes les études faites jusqu'au présent étaient très limitées au voisinage solaire. Là, on va voir parallaxe et mouvement propre pour la milliard d'étoiles dans notre galaxie, vitesse radiale pour une dizaine de millions. Donc, on aura des abondances chimiques qui viennent d'autres projets qui sont liés à Gaïa. Donc, on peut espérer de faire le type d'analyse que je vous ai montré sur des échantillons beaucoup plus grands, beaucoup plus élargis, et donc d'essayer vraiment de pouvoir comprendre de façon plus robuste l'histoire de formation de notre galaxie. Merci.